France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, il défend une règle de simplicité et de liberté. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, souhaite autoriser le burkini, mais aussi la baignade seins nus dans les piscines de sa ville. Communautarisme, répond le préfet qui va saisir la justice. Le débat juridique dans un instant. Et Éric Piolle est notre invité à 13h30. Toutes vos questions dès maintenant à ce sujet, mais aussi sur l'union de la gauche pour les législatives et la politique écologique. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. McDo se retire complètement de Russie. Renault cède provisoirement au moins ses investissements. Les entreprises occidentales prennent acte de la durée de la guerre en Ukraine. Qui succédera à Jean Castex à Matignon? Toujours pas de réponse. Est-ce que ce sera dans la journée? On verra. Jean Castex, en tout cas, attend de pouvoir retourner à Prades, sa ville, pour faire un peu de bricolage et parler rugby. Nous entendrons le président du club. Tâche du futur gouvernement, accélérer la transition écologique. Une loi d'exception est en préparation pour passer plus vite les obstacles administratifs. Le coût de la transition, c'est 500 milliards, selon le MEDEF. Fin du masque obligatoire dans les transports. Chacun est pris dans ses contradictions.
Je pense que fondamentalement, on ferait mieux de le garder. Hein. Parce que là, vous voyez, ça se promène.
Vous dites on ferait mieux de le garder, mais vous ne le mettez pas,
non? Bah non, puisque la moitié des gens ne le mettent pas. Alors.
Voilà, reportage dans le TGV tout à l'heure. Dans l'actualité encore, la tuerie de Buffalo, la communauté noire visée, la théorie du grand remplacement qui fait des ravages aux États-Unis. Tony Verrel, l'ancien footballeur, condamné à de la prison ferme. Et puis l'actualité de l'édition, pas de nouvel album de Gaston Lagaffe pour l'instant. Et quand le mot nègre disparaît largement d'un roman de Conrad dans une nouvelle traduction. Et puis dans C'est une chanson, tout à l'heure, nous écouterons Bobby McFerrin donner une version étonnante à des airs classiques de Jean-Sébastien Bach, par exemple. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Burkini ou seins nus, faire simple et donner la liberté de choix. Voilà comment le maire de Grenoble, Éric Piolle, défend le nouveau règlement dans les piscines de la ville qu'il soumet à son conseil municipal cet après-midi. Le sujet divise, y compris dans sa majorité. Liberté, dit le maire écologiste. Pour le représentant de l'État en Isère, le préfet, on cède plutôt aux revendications communautaristes et religieuses en autorisant le burkini, ce maillot de bain qui couvre le corps et la tête des femmes. Le préfet va saisir le tribunal administratif à la demande du ministre de l'Intérieur. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Quelles sont les chances d'aboutir pour cette action judiciaire?
Eh bien, le préfet de l'Isère assure qu'il va se servir du déféré laïcité pour saisir le tribunal administratif de Grenoble. Cette procédure existe depuis l'an dernier avec la loi séparatisme. Elle permet aux préfectures, quand elles estiment qu'une municipalité porte gravement atteinte au principe de laïcité, de mobiliser en urgence un juge pour suspendre la mesure. Mais le burkini est-il incompatible avec le respect de la laïcité? Non, si l'on en croit une précédente décision du Conseil d'État à l'été 2016. La plus haute juridiction administrative a mis un terme aux arrêtés d'une trentaine de communes qui interdisaient le burkini sur les plages. Selon Patrice Spinozzi, avocat spécialiste des libertés publiques, cette jurisprudence s'applique aussi pour les piscines municipales.
Depuis 2016 et la décision du Conseil d'État, il n'est pas possible d'interdire le burkini au seul motif de son aspect religieux. C'est que la seule chose qui puisse être faite dans une piscine municipale, c'est interdire des vêtements type burkini, non pas pour des raisons de laïcité, mais uniquement pour des raisons d'hygiène dans le cadre d'un règlement intérieur.
D'après la loi, donc, pour préserver la qualité de l'eau dans les bassins, une piscine municipale peut interdire les vêtements couvrant les combinaisons de nage ou de plongée, le burkini, mais pas uniquement le burkini. Les usagers des services publics ont en effet tout à fait le droit de porter des signes religieux.
Merci Mathilde Vinceneux. Et à 13h30, Éric Piolle, le maire de Grenoble, invité de France Inter. Vos questions sont les bienvenues, 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. C'était une scène étonnante hier lors des trophées de fin de saison de football. Kylian Mbappé, élu meilleur joueur, s'est fait le porte-parole d'Emmanuel Macron. Écoutez.
Est-ce que votre choix est fait?
Oui, quasiment.
Évidemment, quasiment. L'attaquant de l'équipe de France parlait de son avenir à lui, Real Madrid ou PSG. Mais au fond, quand il dit quasiment, c'est un peu pareil. À Matignon, c'est quasiment fait. Lundi dernier, Emmanuel Macron disait qu'il avait choisi son Premier ministre. Mais si c'est le cas, si cela n'a pas changé depuis, l'annonce tarde à être rendue publique. Toujours rien, un peu plus de 3 semaines après le second tour de la présidentielle. Peut-être dans les heures, voire les minutes à venir, mais pour l'instant rien. Et après tout, un peu de temps n'est pas un drame. Au contraire, c'est l'idée que défend l'un des des interlocuteurs réguliers d'Emmanuel Macron, François Bayrou.
Moi, je ne suis pas choqué que dans la transition entre deux législatures, deux périodes, le président de la République réélu prenne du temps, un peu de temps, pour remettre les choses à plat, pour qu'on aperçoive bien les problèmes qui vont se poser et pour prendre les décisions qui s'imposent. Le président élu a besoin d'apercevoir la période qui s'ouvre comme une période nouvelle et dans cette période-là, au fond, qu'il mette en place ses nouvelles équipes. Cette idée selon laquelle il faut être sous la pression des événements, sous la pression du calendrier, sous votre pression, la pression des médias, en disant « mais alors, ça tarde !» Je pense que c'est une idée qui ne correspond pas à la difficulté...
À Emmanuel Macron.
D'abord peut-être, mais à la difficulté des temps que nous vivons.
François Bayrou avec Marc Fauvel et Salia Brakia sur France Info ce matin. En attendant donc, Jean Castex est toujours officiellement Premier ministre, mais il a déjà la tête à des travaux de bricolage dans sa maison de Prades, dans les Pyrénées. Les volets et la rambarde ont besoin d'un coup de peinture, un peu délaissé par leur propriétaire qui a passé 680 jours à Matignon. Jean Castex donne ce détail dans un entretien au journal Le Parisien ce matin. Il est au milieu des cartons, sa lettre de démission est prête. Personne n'est propriétaire de sa charge, souligne le toujours Premier ministre. J'espère que je suis meilleur en sortant qu'en arrivant. Je ne demande strictement rien, aucun poste ministériel. On l'attend donc à Prades pour discuter bricolage et rugby. Le président du petit club de rugby, Gilbert Anglès.
C'est un supporter plus qu'assidu et fidèle. On voit le dimanche quand il est disponible, il est au stade. Qu'on ait tous les joueurs par leur prénom. C'est quelqu'un qui encourage, mais c'est aussi quelqu'un qui sait ne pas être content quand on n'est pas très bon. Voilà, avec ses mots, avec une espèce de classe, je dirais. Nous, des fois, ça peut être un peu plus vulgaire. Hein. Mais en tout cas, les résultats, les infos, les compositions d'équipe, on les a toujours tout envoyé. Après, on comprend bien qu'il n'avait pas forcément le temps de répondre ou de se tracasser de ça. Je sais que de loin, il suivait les résultats. En tout cas, il sera toujours le bienvenu ici. Les gens l'attendent vraiment. Et surtout, les gens comptent sur lui, quoi. Voilà. Il a dit qu'il voulait quand même prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul, on le comprend. J'ai pu comprendre hier qu'il voulait repeindre les volets. S'il s'investit dans Prades à fond, comme il l'a toujours fait, s'il faut lui peindre les volets, on ira lui peindre les volets. C'est quelqu'un qui est allé faire ce boulot à un moment hyper compliqué. Et je suis sûr qu'il y a laissé de l'énergie.
Un propos recueilli par Cécilia Arbona. Le ou la future Premier ministre sera chargé de la planification écologique. Mettre en place un calendrier, les réformes qui vont avec, pour une transition vers une économie plus en phase avec le changement climatique, qui carbure moins au dioxyde de carbone. Et cette préoccupation est désormais très largement partagée. Même le MEDEF s'en empare. Conférence de presse de l'organisation patronale ce matin, pour présenter une étude qui détaille le coût de la décarbonation pour les entreprises et les ménages, il est évalué ce coût par le MEDEF à 500 milliards sur 5 ans. Au-delà du prix, comment fait-on pour accélérer la transition de l'économie? Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, avec Delphine Simon.
À partir de 2023 jusqu'au 2030, il faut que globalement, ménages et entreprises, on investisse plus de 500 milliards dans la transition énergétique. La France décroît ses émissions, à peu près de 2%, 2,5% par an, mais elle ne les décroît pas assez vite pour atteindre le moins 55 en 2023 et surtout la neutralité carbone en 2050. C'est un sujet au fond économique et scientifique, c'est pour ça que ça se planifie. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait un Premier ministre en charge de la transition écologique, donc on lui dit ben voilà ce que ça coûte de décarboner et de répondre à nos objectifs. Comment on fait ? Qu'on se mette autour de la table et qu'on regarde comment financièrement on peut aider les entreprises et les ménages à passer ce cap. Et pour les entreprises, c'est évidemment, il faut le faire micro-secteur par secteur, parce que décarboner le transport routier, ça n'est pas décarboner l'acier ou la chimie. C'est des investissements supplémentaires, on est déjà très endettés, la France dépense énormément, c'est où est-ce qu'on fait des économies? Les retraites en font partie, mais il n'y a pas que ça, il y a tout le fonctionnement. Et là, c'est le rôle de l'État et du gouvernement qui va être nommé, pas le rôle du MEDEF.
Voilà pour les entreprises. Alors justement, du côté du gouvernement, comment accélérer sur la transition énergétique? Comment multiplier par 10 le solaire? Construire 50 parcs d'éoliennes en mer d'ici à 2050? Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Le gouvernement, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, travaille sur une loi d'exception pour déroger au fond à certaines lourdeurs administratives.
Oui, une loi de ce genre avait été prise en 2018 pour donner un coup d'accélérateur au chantier des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Objectif, réduire les délais, simplifier les procédures, alléger les consultations publiques pour livrer les infrastructures à temps pour les JO. L'idée cette fois est de booster le déploiement des énergies renouvelables. Le syndicat des énergies renouvelables qui regroupe les acteurs économiques de la filière préfère parler d'une loi d'accélération plutôt que d'exception. Son président Jean-Louis Ball.
Ça ne veut pas dire que les projets énergie renouvelable soient automatiquement acceptés. On ne peut pas se passer de la concertation, mais l'instruction des projets doit aller beaucoup plus vite. Un projet éolien, en Allemagne, il faut entre 3 et 4 ans avec toutes les procédures. En France, c'est plutôt 7 à 8 ans.
Le contenu de cette loi d'exception n'a pas été rendu public, mais elle inquiète déjà les associations qui contestent des projets d'implantation d'énergie renouvelable. Daniel Steinbach préside la Fédération nationale Vent de colère, mobilisée contre l'éolien industriel.
Les mesures exceptionnelles pour accélérer les énergies renouvelables, elles se succèdent sans arrêt depuis 5 ans. Il y a des délais très stricts fixés à l'administration pour instruire les dossiers, etc. Les promoteurs éoliens comme le photovoltaïque cherchent à avoir des passe-droits. Mais je ne vois pas où est-ce qu'il y a du gras à enlever.
Ce projet de loi d'exception sera examiné dès cet été, d'après le ministère de la Transition écologique.
Et la transition écologique, voilà un autre sujet de question à Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui sera notre invité tout à l'heure, 01 45 24 7000. Il a porté 8 fois le maillot de l'équipe de France et fait les beaux jours du Racing Club de Lens, notamment. Le footballeur Tony Vérel est condamné à de la prison ferme. 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes. Condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy pour violence avec arme. Cela s'est passé il y a plus de 10 ans à la sortie d'une boîte de nuit, décès les Nancy. Louise Thomann, France Bleu Lorraine.
Les frères Vérel écopent logiquement des peines les plus lourdes. Ils risquaient jusqu'à 10 ans de prison pour des violences en réunion, avec armes et avec préméditation. Accusés d'être revenus armés sur le parking de cette boîte de nuit en 2011 et d'avoir tiré sur les videurs après une violente bagarre entre les deux groupes. Tony Vérel, l'ancienne star du football, et son frère Fabrice sont condamnés à 5 ans de prison, dont 3 en ferme, suivant les réquisitions du procureur. Le reste de la fratrie écope de 1 en ferme et 2 ans avec sursis. Mais la justice estime aussi que les videurs ont commis des violences. Les peines pour eux sont plus légères, uniquement quelques mois de sursis. Le tribunal de Nancy rend sa décision devant une salle totalement vide. Seuls les avocats des frères Vérel sont présents et se refusent pour l'instant à tout commentaire. On ne sait donc pas s'ils feront appel ou non.
À la page judiciaire également, cette décision du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qui ordonne la réouverture provisoire de la grande mosquée de Beauvais. Il y a eu des changements depuis sa fermeture ordonnée par la préfecture de l'Oise en décembre. L'imam accusé de prêcher radicaux notamment a été évincé. Une des informations du jour, c'est aussi celle-ci.
Chers voyageurs, bonjour. Nous vous rappelons que le masque n'est plus obligatoire à bord de nos TGV. Je vous souhaite un agréable voyage.
Voilà, petite séquence recueillie par William Delesseux dans un TGV Paris-Barcelone ce matin. Commentaire dans un autre train, un Paris-Nice. La grande majorité des gens avaient bel et bien tombé le masque. Reportage Faustine Calmel.
J'y ai même pas pensé en fait. Personne n'avait, donc je me suis dit, bon ben je vais pas le mettre. C'est sûr que ça change quand même la vie quand on passe 3 ans dans un train. De pouvoir ne pas avoir le masque, c'est quand même juste génial.
Est-ce que le fait de voir de nouveau le visage des gens aussi, ça
ouais.
vous a...
Ouais, c'est rigolo. On a perdu l'habitude de voir le visage des gens et de déconner un peu les expressions, mais maintenant c'est rigolo. Moi j'aime bien.
C'est mieux, oui. Enfin bon, c'est un petit peu bizarre aussi. Hein. Je pense que fondamentalement, on ferait mieux de le garder. Hein. Parce que là, je voyais, ça se promène.
Vous dites, on ferait mieux de le garder, mais vous ne le mettez pas non plus.
Bah non, puisque la moitié des gens le mettent pas. Alors.
J'ai senti une libération. J'attendais ça depuis un bon moment, donc j'étais vraiment très, très contente aujourd'hui de prendre le train dans ces conditions-là. Et ça fait plaisir de voir des sourires, de voir des visages complets. Non, ça fait du bien.
Voilà pour ce reportage de Faustine Calmel. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid chaque jour a beaucoup baissé ces derniers jours et semaines. On est tout de même encore à 32 000 nouveaux cas par jour enregistrés en France. Un pas de retrait supplémentaire pour 2 grandes entreprises occidentales en Russie. McDonald's avait déjà fermé ses magasins début mars. Le groupe a annoncé ce matin se retirer complètement du pays, y vendre toutes ses activités. Voilà pour l'américain. Quant au français Renault, un pas de retrait aussi, mais un peu moins net. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
En direct de Moscou, notre correspondant Renault cède donc sa filiale en Russie à la ville de Moscou et sépare 68% dans Avtovaz, le premier constructeur auto russe. Mais dans le second cas, Sylvain, il se laisse la possibilité de reprendre ses billes dans les années à venir. Un arrangement qui conviendrait à tout le monde, c'est ça?
Oui, effectivement, pour Renault, hein, c'est une façon d'essayer d'éviter de perdre trop d'argent dans l'immédiat. Le constructeur confie ses usines à l'État russe et garde une porte de retour avec la possibilité de racheter ses parts dans un délai de 6 ans, si la situation le permet. Pour l'État russe, là, c'est l'urgence sociale qui prime. Pas question de laisser 45 000 salariés sur le carreau, d'affronter la grogne des ouvriers d'Avtovaz. Cette nationalisation consentie, hein, permet d'assurer le paiement des salaires. Mais le plus dur reste à venir, parce que les lignes de production sont à l'arrêt depuis des semaines maintenant par manque de composants à cause des sanctions. Il faut donc trouver de nouveaux fournisseurs, s'il en existe, et savoir quel type de modèles pourront être construits. Quel modèle de Lada à Toliati chez Avtovaz, et quels modèles vont pouvoir sortir de l'usine de Moscou, qui elle était une usine Renault, qui produisait des Captur ou des Arkana notamment. La mairie de Moscou annonce ce matin qu'elle va ressusciter une vieille marque de l'ère soviétique, Moskvitch, disparue au début des années 2000, et produire sous ce macaron, en collaboration avec le constructeur de camions russe Kamaz, des véhicules, des projets industriels encore très flous, très incertains, mais l'essentiel est peut-être ailleurs. Tout le monde a gagné du temps aujourd'hui.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou pour France Inter. En Ukraine, les combats s'intensifient dans l'est du pays, et alors que les parlements suédois et finlandais examinent la candidature des deux pays à l'OTAN, l'Alliance Atlantique, Moscou prévient, et à des termes forts, Moscou parle de graves erreurs et de conséquences considérables si jamais ces deux pays devait adhérer à l'OTAN. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un crime raciste motivé par la haine. Cet individu est venu avec l'objectif de tuer le plus de personnes noires possible. Voilà les propos du chef de la police et du maire de Buffalo dans l'état de New York aux États-Unis après le massacre commis par un homme de 18 ans qui a filmé son attaque et est parvenu à la diffuser quelques minutes en direct sur le réseau social Twitch. C'est un supermarché d'un quartier noir de Buffalo qu'il a pris d'assaut. 13 personnes visées, 11 de peau noire, 10 morts. Peyton Gendron a roulé 300 km pour commettre sa tuerie et laisser un manifeste de 180 pages. Il dit notamment adhérer à la théorie du grand remplacement. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour Bruno.
Ce que révèle cet acte ignoble d'extrémisme raciste et violent, comme le dit le secrétaire général de l'ONU, au-delà de la facilité à se procurer des armes aux États-Unis, ça c'est hélas banal, c'est à quel point ce délire du grand remplacement est communément adopté par une partie de la population.
Oui, grand remplacement, l'expression, vous le savez, a été popularisée par Renaud Camus, ou juste remplacement, cette théorie conspirationniste selon laquelle les élites organisent la substitution des populations blanches par les noirs, les hispaniques, les immigrés. Le concept est très répandu, en effet, dans les milieux d'extrême droite aux États-Unis. Il a inspiré des tueries de masse, comme à Buffalo. 11 morts en 2018 dans une synagogue de Pittsburgh. Le tueur estimait que les juifs favorisaient l'arrivée d'envahisseurs sur le territoire américain. 23 morts à El Paso la même année. L'auteur du massacre dénonçait l'invasion hispanique au Texas. Mais la théorie du remplacement est aussi défendue par des responsables politiques, dans des versions souvent atténuées, débarrassées de propos antisémites ou racistes. Newt Gingrich, l'ancien président républicain de la Chambre des représentants et des élus républicains du Congrès, s'en font l'écho. Donald Trump lui-même a parfois qualifié les immigrés d'envahisseurs. Mais le plus influent promoteur de la théorie est sans doute Tucker Carlson, la star de la chaîne Fox News. Il défend régulièrement l'idée que des élites organisent un changement démographique à travers l'immigration. On ne sait pas si le tueur de Buffalo est un adepte de Carlson, mais il écrit dans son manifeste « Pourquoi donc la diversité est-elle présentée comme une de nos forces ?» L'animateur de Fox avait posé exactement la même question dans l'un de ses shows télé.
Et Joe Biden doit se rendre à Buffalo dans les heures à venir. Nous devons travailler ensemble pour combattre la haine qui demeure une tache sur l'âme de l'Amérique, dit le président des États-Unis. Dans son pays, par ailleurs, la campagne pour les élections de mi-mandat au Congrès en novembre tourne en partie autour de cette question. Le droit constitutionnel à l'avortement sera-t-il remis en cause par la Cour suprême? La Cour doit se prononcer d'ici à l'été, mais les premiers échos laissent penser que ce droit est menacé au plan fédéral. Déjà, les manifestations des pros et des anti-avortements se multiplient aux USA, encore samedi dans plusieurs villes du pays. Et les primaires qui se déroulent en ce moment avant ces élections de midterms prouvent l'importance et la sensibilité du sujet dans certains États. Ces primaires ont lieu demain en Pennsylvanie. Sébastien Paour, correspondant de France Inter aux États-Unis, vous avez suivi deux des principaux candidats républicains.
Cathy Barnett, d'abord, maman de 50 ans, retraitée de l'armée, noire et conservatrice, comme le dit le prospectus, à l'entrée de cette salle des fêtes de Southampton, banlieue de Philadelphie. Aucune mention de sa position sur l'avortement dans son propos, mais tous, comme Richard, t-shirt à son effigie et casquette Trump, connaissent son histoire personnelle.
La mère de Cathy Barnett a malheureusement été violée lorsqu'elle avait 11 ans et elle est issue de ce viol. Et elle est donc pro-vie.
L'avortement est autorisé aujourd'hui en Pennsylvanie jusqu'à 24 semaines de grossesse. L'homme d'affaires David McCormick a lui choisi un hangar du comté de Lancaster en plein pays Amish, cette communauté religieuse qui refuse le progrès technique. Lui non plus ne parle pas des fuites de la Cour suprême sur l'IVG parce que le sujet, d'après Hood, gêne une bonne partie de l'électorat républicain.
Je pense qu'il y a un bon pourcentage de républicains qui ne sont pas nécessairement pro-avortement, mais qui ont un problème avec le fait de dire aux femmes ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire.
Un adulte sur cinq est catholique en Pennsylvanie, État perdu par Trump de 80 000 voix à la dernière présidentielle. L'un de ceux qui pourrait déterminer quel parti contrôlera le Sénat à Washington après les élections de mi-mandat en novembre. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
La lutte contre le djihadisme au Sahel se complique à mesure que la junte au pouvoir au Mali s'isole un peu plus au fil des mois. Elle est arrivée, cette junte, en août 2020. Les relations avec la France n'ont cessé de se dégrader au point d'accélérer la fin de la mission Barkhane. La junte est accusée par ailleurs de se rapprocher de la Russie et ses mercenaires. Et dernier développement en date, Bertrand Galichet, elle quitte le G5 Sahel, l'organisme créé pour coordonner la lutte antiterroriste dans la région.
La junte au pouvoir à Bamako explique son retrait du G5 Sahel par le refus de certains États de l'organisation régionale de laisser le Mali en assurer la présidence. Le gouvernement malien y voit des manœuvres politiques d'un autre pays extérieur à la région. Aucun des États mis en cause n'est cité, mais la junte malienne critique le G5 Sahel, accusé de perte d'autonomie et de dysfonctionnement grave. Ce retrait malien du G5 Sahel, qui comptait 5000 militaires, fragilise encore la lutte anti-djihadiste avec le départ de la force Barkhane. Jusqu'à présent, le recours aux miliciens du groupe russe Wagner, appelé en renfort par Bamako, ne permet pas de pallier ce retrait. Sur le plan diplomatique, la junte malienne est ciblée par des sanctions après avoir décidé de se maintenir au pouvoir. Les relations entre Bamako et Paris sont exécrables. Le pouvoir malien a récemment dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec la France depuis 2014.
Et dans un des pays du G5 Sahel, Burkina Faso, des attaques menées par des djihadistes ont fait 40 morts ce matin, selon l'agence France Presse. En France, depuis la réouverture des discothèques au mois de février, des dizaines de personnes à travers le pays ont porté plainte après avoir été victimes d'un curieux phénomène. Quelques heures après la soirée, elles ont constaté des traces de piqûres sur leur organisme, éventuellement quelques accès de faiblesse, rien d'autre. Il y a par ailleurs ces femmes à qui l'on a mis du GHB, la drogue du violeur, dans leur verre en soirée pour provoquer un blackout avant une éventuelle agression sexuelle. Point commun des deux, les traces des produits, quand il y en a, disparaissent vite dans l'organisme. Alors l'hôpital de Nancy met en place un protocole innovant pour les aider dans une éventuelle action judiciaire. Clémentine Sabrier, France Bleu Lorraine.
Quand une personne qui pense avoir été droguée à son insu se présente aux urgences de Nancy, le médecin peut désormais lui proposer des prélèvements, explique le docteur Emmanuel Puskarzik, chef de service du centre antipoison.
Si le contexte est évocateur d'une soumission chimique, on va lui proposer de réaliser ses prélèvements en lui expliquant la démarche. Et ensuite, charge à elle de faire son cheminement. On va lui laisser 5 jours de temps de réflexion. Au bout des 5 jours, si elle n'a pas été portée plainte, les prélèvements seront détruits.
Parce qu'il n'y a pas de place pour garder tous les prélèvements, en revanche, ils sont conservés si la victime porte plainte dans les 5 jours.
Ces prélèvements pourront être réquisitionnés par la justice et suivre le cheminement qui est attendu, c'est-à-dire la consultation en médecine légale et l'exploitation pour essayer de rechercher les substances psychoactives éventuellement en cause.
Les prélèvements sont congelés, donc les substances restent dans l'échantillon. Selon le docteur Emmanuel Puskarzik, c'est essentiel pour gagner du temps pour la victime.
Elle n'est pas forcément très disposé à engager un dépôt de plainte, donc ça lui laisse le temps de réfléchir et de pouvoir faire ces démarches-là.
Les médecins pourront également appuyer le dépôt de plainte des victimes en appelant la police.
Voici à présent l'histoire d'un voyage en voilier entre Bombay en Inde et l'Angleterre. Dans l'équipage, il y a un seul marin de peau noire. C'est un roman de l'américain Joseph Conrad qui s'appelle « Le nègre du Narcisse ». S'appelle ou s'appelait, puisque les éditions Autrement le republient sous le titre « Les enfants de la mer ». Le mot « nègre » a disparu de la couverture et d'une partie du texte. Ilana Mor Youssef, l'éditeur, s'explique aujourd'hui sur ce choix qui crée la controverse.
Un titre comme Le Nègre du Narcisse est-il encore acceptable alors qu'aujourd'hui le mot s'entend exclusivement comme une insulte? Cette question, Alexandre Civico, le responsable éditorial des éditions Autrement, se l'est longuement posée.
Ça n'a pas été une décision simple, ça a été une décision qui a été très discutée. J'en ai parlé donc avec mes collègues chez Autrement, on s'est dit que ce roman, si on le rééditait sous ce même titre, disons que le terme aurait pu faire violence à un certain lectorat, moi j'étais pas sûr. La question s'est posée très longuement et elle n'était pas du tout évidente, et elle l'est toujours pas d'ailleurs.
Pour se sortir d'affaire, Alexandre Civico a opté pour le titre donné à l'édition américaine en 1897 avec l'autorisation de Joseph Conrad. Aux États-Unis, le roman s'est toujours appelé Les Enfants de la Mer, alors que l'édition britannique paraissait sous le titre Le Nègre du Narcisse. Un autre argument a nourri la réflexion d'Alexandre Civico.
Il est possible, alors évidemment je ne peux pas m'avancer, il est mort depuis bien longtemps, mais il est possible que quelqu'un comme Conrad, qui était farouchement anticolonialiste, qui n'était pas raciste, aujourd'hui aurait peut-être utilisé le mot noir.
Dans le texte du roman, à certains endroits, noir a remplacé nègre. Si j'avais laissé les choses telles quelles, on m'aurait critiqué aussi, conclut l'éditeur.
Et donc Les Enfants de la Mer aux éditions de La Découverte paraissent, le livre paraît après demain. Autre débat dans le monde de l'édition, dans un tout autre registre. Gaston Lagaffe va-t-il retrouver une nouvelle vie avec un autre papa que Franquin, 25 ans après la mort du dessinateur belge? Les éditions Dupuis ont racheté les droits et choisi le Canadien Delaf pour imaginer de nouvelles aventures à Gaston. Mais la fille de Franquin s'y oppose, affirmant que son père avait fait savoir de son vivant qu'il ne voulait pas d'autres dessinateurs après lui. Alors qu'un arbitrage juridique doit être organisé à Bruxelles, Laetitia Gaillet, Dupuis suspend la parution du nouvel album.
Voilà, en décidant de suspendre la publication des premières pages de l'album dans le journal de Spirou, Dupuis cherche à apaiser les tensions. Il faut dire qu'une pétition avec des auteurs tels que Gueluc, Zep, Bouc, qui appelle au respect de la volonté de Franquin, en a fait mieux en matière de communication pour le lancement d'un nouveau Gaston Lagaffe. Les éditions Dupuis disent donc vouloir prendre le temps du débat, car il y a ce qu'a dit Franquin à ses amis et que défend sa fille, je ne veux pas que Gaston me survive. Et il y a ce qu'il a signé en 92, la vente de ses droits. À l'époque, Franquin avait émis deux réserves artistiques, pas de Gaston si le dessin ne correspond pas à Gaston, et éthique, l'univers proposé par le nouvel auteur ne correspond pas au personnage de Gaston. Or, c'est pas du tout le cas ici avec Delaf. Des reprises de personnages de BD, il y en a eu, Corto Maltese, Black et Mortimer, Lucky Luke, Astérix et j'en passe, mais à ce jour, selon l'avocate Dupuis, c'est la première fois que ça se joue en justice. Sans doute parce que Gaston, pour Franquin, c'est comme Hergé avec Tintin, c'est son héros le plus intime, le plus proche de lui. Rendez-vous donc en septembre pour la décision finale.
Et rendez-vous dans une minute pour la météo de ce jour avec Elodie Calac.
L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
Allô Alain, c'est Géraldine. Je suis pas très à l'aise. Philippe vient de partir en mer tout seul, sans moi, et vous savez, avec ses oreilles.
Il a bien pris ses deux paires d'appareils auditifs.
Ah oui, je les ai rangés moi-même.
Et il entend très bien avec.
Oui, bien sûr.
Bon, alors tout va bien, hein. Il peut être tranquille, et nous aussi.
Avec Chin Audio, la sécurité pour 1 euro de plus, ça n'a vraiment pas de prix.
Chin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus, jusqu'au 31 août 2022. Voir conditions dans nos magasins Alain Flelot Acousticien. Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste.
France Inter. M.
Le festival We Love Green, de retour à Paris les 2, 4 et 5 juin, avec une programmation vibrante et engagée. L'occasion de passer le week-end au vert pour 3 jours de célébration, de concerts et DJ sets, de conférences et de gastronomie. Côté musique, retrouvez Gorillaz, Phoenix, PNL, Georgia Smith, Angèle, Juliette Armanet, SCH, Clara Luciani et bien d'autres. We Love Green, les 2, 4 et 5 juin, au cœur du Bois de Vincennes à Paris, un festival France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée chaude et ensoleillée avec quelques averses au nord.
Oui, alors les températures perdent quelques degrés par rapport à hier, mais elles restent chaudes. 20 à 24 degrés attendus près de la Manche sur la Côte d'Azur, 25 à 29 ailleurs, avec 26 degrés à Paris, 27 à Tours et à Nîmes, 29 à Grenoble, Bordeaux ou Toulouse. Alors côté ciel, beaucoup de soleil, un petit peu plus de nuages au nord, surtout sur le Grand Est où des averses parfois orageuses éclatent encore, alors elles s'éloignent vers l'est au fil des heures. Sur la Bretagne jusqu'à la Normandie, là aussi pas mal de nuages, on attend quelques averses. Elles pourront s'accompagner d'orages sur la Normandie. Quelques averses orageuses aussi sur les Alpes cet après-midi. Et puis, pour la suite de la semaine, ça s'annonce très estival, ensoleillé, parfois orageux et très chaud. En milieu de semaine, on pourra atteindre 30 à 34 degrés sur la plupart des régions. Ce sera plus respirable tout de même vers la Manche et vers la Côte d'Azur et la Corse.
Merci Élodie Calac, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Un conseil municipal très attendu se tient cet après-midi à Grenoble. Le maire Éric Piolle propose à son conseil d'autoriser le burkini, mais aussi la baignade seins nus dans les piscines municipales de la ville. Le burkini, c'est ce maillot de bain intégral qui couvre le corps et la tête. Outil d'oppression patriarcale, dit la première adjointe à la mairie de Grenoble, car la majorité au sein de la ville est divisée. Une bonne partie de l'agglomération opposée. Le préfet se dit prêt à saisir le tribunal administratif. De son côté, Éric Piolle, lui, défend une réforme de liberté. 01 45 24 7000, l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions au maire de Grenoble, qui est notre invité jusqu'à 13h45. Bonjour Éric Piolle.
Bonjour.
Question simple, pourquoi ce choix ?
Alors d'abord, contrairement à ce que vous avez dit, nous ne faisons pas ce règlement pour autoriser le burkini. Nous enlevons des interdits, hein, des interdits qui sont récents, qui datent d'il y a 10 ans. Et nous souhaitons que chacun puisse venir se baigner à la piscine comme il le souhaite, juste dans le respect de l'hygiène et de la sécurité. Et donc que les femmes, effectivement, puissent venir les seins nus au même titre que les hommes. Pas de raison de continuer à transformer la femme en objet sexuel. Qu'on puisse venir avec des maillots couvrants pour se protéger du soleil. Et que ceux qui souhaitent venir avec des maillots qui signent leur appartenance religieuse ou leur conviction philosophique puissent le faire également.
Question d'Elisabeth au standard pour vous, Éric Piolle. Bonjour Elisabeth.
Bon. Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Moi, mon souci et mon inquiétude, c'est justement la montée du communautarisme et éventuellement pourquoi derrière tout ce discours n'y a-t-il pas justement une volonté d'imposer aux femmes ce port de vêtements couvrants et qui n'a rien à faire dans les piscines municipales quelles qu'elles soient.
Merci Elisabeth pour cette question. Outil voilà. D'oppression patriarcale, dit la première adjointe, votre première adjointe Éric Piolle, quelle réponse ?
Oui, je comprends l'émotion que ça peut susciter, mais en plus en pratique, vous savez que les islamistes intégristes, en fait, ils ne vont pas du tout à la piscine. Hein. Donc les personnes qui souhaitent là venir se baigner avec un maillot de bain couvrant, le souhaitent parce qu'elles ont des convictions. Et on ne peut pas dire, oppresser les femmes au nom du fait qu'elles seraient sous l'emprise de leur mari ou de leur chef religieux. C'est ce qui a été fait pendant très longtemps pour refuser le vote des femmes en France. On avait le même discours, ne donnons pas le vote des femmes aux femmes parce qu'elles sont sous l'emprise de leur mari ou des curés. En fait, laissons les femmes libres et les combats d'émancipation, qui sont bien réels et que je porte, ils se tiennent partout, donc pas d'interdit vestimentaire, ni de se vêtir, ni de se dévêtir. Et puis, par ailleurs, évidemment, il faut lutter pour l'application de la loi 1905, ce que le gouvernement n'a pas fait dans ces 5 dernières années.
J'entends l'analogie avec le droit de vote, mais tout de même, Éric Piolle, derrière ce vêtement, fondamentalement, il y a l'idée que les femmes devraient se couvrir le corps au nom d'une religion, pas les hommes, et au fond, une marque d'inégalité homme-femme que vous cautionnez, peut-on dire, avec cette décision.
Non, c'est exactement l'inverse. Ce qui est une inégalité, c'est d'imposer des vêtements aux femmes. Donc, je suis aux côtés des beach handballeuses norvégiennes quand la fédération de beach handball internationale les oblige à montrer leurs fesses sur les terrains. Eh ben non, en fait, on n'oblige pas les femmes à se dépoiler pour le plaisir du sport. Non, en fait, il faut arrêter ces injonctions à se vêtir ou se dévêtir.
Et justement, pourquoi les femmes, elles, devraient se couvrir et pas les hommes à ce moment-là ?
Mais
c'est là qu'il y a une marque d'inégalité.
En fait, Mais non, en fait, tout le monde peut se couvrir ou se découvrir. Donc vous pourrez, monsieur, allez vous baigner. Hein, j'avais là un message d'un de mes anciens conseillers municipaux à l'instant, avocat, qui lui souhaite se baigner avec des maillots couvrants pour se protéger du soleil, des maillots anti-UV, et il ne le peut pas. Donc il y a des personnes qui ne souhaitent pas exposer leur corps parce qu'ils ont des cicatrices, parce qu'ils sont dans des processus de changement de genre, parce que pour plein de raisons qui les concernent, ça ne regarde pas le service public. Moi, je suis universaliste, profondément universaliste, et donc c'est l'accessibilité à toutes et tous du service public dans le respect de la laïcité. Mais il n'y a pas de question de laïcité à la piscine. C'est comme dans la rue, vous pouvez porter une kippa, une croix, un turban ou le signe religieux que vous allez inventer dans la nouvelle relation. Dans la nouvelle religion que vous inventerez, c'est votre choix, dans la rue comme à la piscine.
Vous parleriez de vêtements de liberté à propos de ce burkini ?
Non, en fait, il n'y a pas de vêtements de liberté. Les femmes s'habillent comme elles veulent.
La structure qui est derrière ce combat, Alliance Citoyenne, est-ce qu'elle suscite des réticences de votre part ? Elle est soupçonnée de séparatisme par les renseignements. Elle plaide pour le hijab dans les compétitions sportives, le foot notamment, et une partie des joueuses de l'équipe mise en avant dans les médias n'a quasiment jamais touché un ballon. Est-ce que vous vous dites pas que cette structure a des visées autres qu'une simple question de vêtements ?
Alors d'abord, ce n'est pas à l'initiative de cette structure que nous faisons ce règlement, hein, nous l'avons fait. D'abord, parce que nous sommes arrivés avec un plan canicule en 2018 et que nous sommes trouvés face à une incohérence d'un règlement très récent, qui date de 2012. Ces injonctions, ces discriminations, elles ont été introduites à Grenoble en 2012. Et donc on est arrivé en disant, bah zut, on peut pas en fait venir en maillot couvrant à la piscine. Et puis, il y avait un deuxième combat, qui est un combat féministe, parce que nous refusons la sexualisation du corps des femmes. Bon, on a interdit la pub, vous le savez, à Grenoble en 2014. C'était une des nombreuses raisons pour retirer la publicité, c'est que les publicités utilisent des femmes dénudées pour vendre à peu près tout. Donc il y a là, vraiment, il faut revenir juste à la simplicité des textes, et c'est comme ça que tout le monde ira mieux.
Question de Juliette au standard pour vous, Éric Piolle. Bonjour Juliette.
Oui, bonjour. Ma question est toute simple. Qui dit burkini dans une piscine dit beaucoup plus de germes. Qui dit beaucoup plus de germes dit beaucoup plus de chlore. Est-ce qu'en tant que maire écologiste, Éric Piolle n'y voit pas une flagrante contradiction, d'autant plus que là, à l'entendre, c'est-à-dire que maintenant on pourra venir, tout le monde pourra venir se baigner habillé, les types qui voudront mettre des t-shirts mettront des t-shirts, etc. Donc ça devient n'importe quoi. Est-ce qu'il n'a pas l'impression de faire passer l'idéologie avant le simple bon sens ? Moi, je sais qu'en tout cas, dans une piscine avec des burkinis, je n'irai jamais me baigner, je trouve ça dégoûtant.
Éric Piolle, quelle réponse ?
Alors, d'abord, madame, vous savez qu'il y a plein de piscines en France dans lesquelles les burkinis ne sont pas interdits, hein, parce qu'il y a plein de piscines.
Alors, il y a celle de Rennes. Il y a celle de Rennes, Éric Piolle. Quels autres exemples pouvez-vous citer?
Il y a un centre aquatique dans le Vercors plus près de chez nous. Il y avait un maire d'hiver droite à Surgères, je crois, qui avait fait également un changement de règlement en la matière. Mais surtout, il y a plein de piscines dans lesquelles ça n'est pas interdit parce que ça n'a pas été interdit quand ça a été la mode de faire ces interdictions au début des années 2010. Et donc sur la question de l'hygiène, le ministère des Sports a répondu que le burkini ne posait pas plus de questions d'hygiène que n'importe quel autre vêtement, n'importe quel autre maillot. Donc il faut, comme tous les maillots, et c'est dans notre règlement, il faut arriver en ne portant pas déjà son maillot à la piscine. Il faut que ce soit une matière spécifique pour la baignade, donc spécifiquement plutôt du lycra, et il faut que ce soit près du corps.
Donc ça veut dire que accessoirement, que les caleçons un peu larges que peuvent porter certains garçons, du coup,
ne sont toujours pas autorisés, effectivement, pour des raisons d'hygiène. Et il faut rappeler hein, que d'abord qu'à Rennes, ça s'est fait en 2018, oui, sans aucun débat national, par une maire socialiste, avec le soutien des trois députés de La République En Marche, et que depuis 4 ans, ça ne pose aucun souci dans les piscines rennaises. Donc il y a un emballement qui est pour moi lié à la zémorisation du débat public. Donc nous respectons l'hygiène et la sécurité, tout le reste ne concerne pas la vie des piscines.
Question de Marie-France, comment comptez-vous, justement à propos de l'emballement, comment comptez-vous accompagner le personnel qui devra gérer la situation ? Est-ce que vous avez prévu quelque chose ? Est-ce que vous redoutez que ce soit un peu tendu dans les piscines de Grenoble, au moins dans les jours à venir ?
Alors, d'abord, dans les piscines des grandes villes, hein, au moins des grandes villes, c'est très tendu, hein, depuis déjà de nombreuses années. Y faire vivre la cohabitation générale dans le respect de tous, c'est très compliqué. Vous avez vu que l'été dernier, il y avait des piscines qui avaient dû être fermées, notamment à Lyon. Donc, c'est très compliqué parce que plus il fait chaud, plus les gens ont besoin d'un accès. C'est vraiment une dimension là qui est liée au climat, mais on a de plus en plus de besoin d'accès à la fraîcheur. Et que le vivre ensemble est compliqué. Mais pour nos
y compris à Grenoble,
on a dialogué.
Y compris à Grenoble, Eric Piolle, vous avez des exemples concrets. C'est intéressant de nous dire que dans les piscines, ça devient compliqué.
Oui, parce que on a souvent, effectivement, on a eu souvent des bagarres. On a des gens qui veulent rentrer et qui se battent devant parce qu'il y a la queue, etc. Donc c'est un espace qui, comme d'ailleurs l'ensemble du service public, qui subit des tensions. Hein, vous voyez bien à Pôle emploi que les gens sont plus en plus agressifs. Ça se voit partout, et y compris dans les piscines. Voilà, il y a vraiment pas de spécificité là. Et donc on a travaillé avec nos agents, bien sûr, mais pour nos agents, avoir une règle claire. Ça sera plus facile, parce que là, ils ont vécu, notamment là par des intrusions en 2019 et en 2021, ils ont vécu des situations qui étaient très complexes pour eux. Donc là, on leur enlève un des petits facteurs, hein, parce que les autres facteurs sont bien plus importants, mais un des petits facteurs qui font qu'ils ont aujourd'hui un métier compliqué.
Est-ce que ça ne traduit pas, Éric Piolle, une fracture de plus en plus profonde à gauche sur ces questions de laïcité, une partie de la gauche se revendiquant comme universaliste et à ce titre-là ne voulant pas toucher à des règles comme celles dont on parle aujourd'hui, et d'autres que vous pouvez incarner qui sont plus à l'écoute des revendications des communautés?
Alors, je vous reprends, parce que je suis profondément universaliste. C'est parce que je suis universaliste.
Je pense que c'est pas ce que vous diraient ceux qui s'opposent à l'autorisation du burkini dans les piscines.
Oui, d'accord, mais du coup, eux, je leur dis juste, si vous voulez interdire les signes religieux dans l'espace public, demandez à changer la loi de 1905. Moi, j'adore l'histoire, je me suis plongé dans ces textes-là. J'ai regardé les débats, mais aussi le texte. J'invite tout le monde à relire la loi de 1905, elle est très claire. Et c'est d'ailleurs le ministère de l'Intérieur lui-même, hein, qui, dans une réponse au Sénat en 2019, a rappelé qu'il n'était pas question de laïcité à la piscine, qu'on ne pouvait pas interdire des vêtements pour des motifs religieux.
Et sur la fracture à gauche, est-ce que vous...
Je déplore le valsisme. Oui, alors d'abord, il y a l'immense fracture, je le rappelle, elle est avec Zemmour, Le Pen, la dérive des LR qu'on a vue pendant la primaire, et le jeu de la Macronie, hein, puisqu'on a entendu Gérald Darmanin s'offusquer de voir des rayons halal et cachère dans les supermarchés. Et sur les vêtements des femmes en général, on a entendu Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, là aussi, dire que ce n'était pas républicain pour une jeune fille d'aller avec un crop top à l'école. Je dis, laissons les jeunes femmes aller à l'école comme elles le souhaitent, hein, et éduquons plutôt le regard des garçons, et éduquons le regard de Monsieur Blanquer s'il n'arrive pas à détourner son regard des nombrils des filles.
Et pas de fracture à gauche?
Et la fracture à gauche, elle est liée essentiellement au moment du printemps républicain, qui a embarqué, donc c'était le valsisme, mais qui a embarqué derrière, effectivement, pas mal de monde. Donc c'est quelque chose qui reste tendu et qui fait qu'au sein de notre majorité, on n'est pas tous unis là-dessus, on a des différences de sensibilité, à peu près 70% favorables, 30% défavorables, pour faire simple. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2018, on s'était dit, ok, on repose le débat, on va prendre du temps pour se former tous ensemble, ce qu'on a fait pendant 6 mois avec des intervenants extérieurs, et on se saisira de cela après les municipales. On aurait dû le faire à l'été 2021. Le Covid fait que
compliquer les choses.
Après, juste un an plus tard, voilà, on y est.
Est-ce que vous sentez pleinement engagé derrière la NUP, l'Alliance de gauche pour les législatives, Éric Piolle?
Oui, totalement. Vous savez que moi, je me suis engagé en politique sur le tard. J'ai passé 18 ans dans l'industrie, donc j'étais pas militant politique du tout. Je me suis engagé en disant que le paysage politique allait se séparer en trois. C'était il y a 10 ans, plus de 10 ans, on était loin de là à l'époque. Un modèle néolibéral de plus en plus autoritaire, donc qu'on a vu émerger en 2017 avec Emmanuel Macron. Un modèle réactionnaire de repli sur soi, là on le voit évidemment avec Zemmour, Le Pen et la dérive des LR. Et puis un arc humaniste j'ai fédéré à Grenoble en 2014, qui nous a permis d'ailleurs de gagner en 2014 et de regagner largement en 2020, puisqu'on est les seuls sortants en 2020 à avoir gagné des voix parmi les 25 plus grandes villes de France, donc ça suscite un intérêt. Alors évidemment, moi, je prônais cet arc humaniste autour de l'écologie politique. Là, c'est évidemment le résultat des présidentielles extrêmement clair. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a eu la capacité et la sagesse de rajouter des chaises autour de la table.
Et vous croyez que cet arc humaniste
peut donner un espoir?
Vous croyez que cet arc humaniste, pour reprendre votre expression, peut obtenir la majorité en juin?
Je crois que tout est extrêmement instable et que oui, ça suscite un espoir, une espérance. Donc nous verrons en juin, mais il faut évidemment tout donner pour remporter le maximum de circonscriptions. Et ça n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait une configuration unique à ce jour dans la Ve République. Mais il y a plein de configurations uniques. Vous voyez, ça fait 22 jours qu'on attend le Premier ministre. Le précédent record, c'était 11 jours après une élection présidentielle. Donc nous vivons en permanence des moments assez nouveaux.
Merci Éric Piolle, maire de Grenoble.
Merci beaucoup
d'avoir répondu aux questions de France Inter et donc le conseil municipal cet après-midi. Il est 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Emmanuel Macron serait-il mitterrandiste?
Comment rajouter des sièges autour de la table de l'Europe? C'est moins grave que le Burkini, mais comment associer l'Ukraine à l'Europe?
On fera le parallèle Macron-Mitterrand. Le feuilleton autour de la mode des jardins familiaux. Nous serons à Lille jusqu'à vendredi. Et tout de suite, c'est une chanson. Plaisir de voir revenir Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Bruno.
Le directeur du festival Jazz sous les pommiers, qui commence vendredi, ce festival à Coutances dans la Manche, est à votre micro aujourd'hui. Denis Lebas a choisi de vous parler d'un artiste pour le moins original, c'est Bobby McFerrin.
Un artiste qui est d'ailleurs déjà venu à Jazz sous les pommiers, c'était il y a une quinzaine d'années. Et avant cela, c'est lors d'un autre festival que Denis Lebas a vraiment découvert celui qu'il considère à la fois comme un chanteur et un percussionniste vocal.
C'était en juillet 92 au North Sea Jazz Festival, qui est un des plus grands festivals de jazz en Europe. Ça se passe à La Haye, à Den Haag. Aujourd'hui, le festival est transposé à Rotterdam. Enfin, à l'époque, c'était à La Haye. Et je découvre ce gars que j'avais déjà entendu, évidemment, à travers les disques auparavant. Mais là, c'est un choc, quoi. C'est un gros frisson. Je suis un peu en apesanteur. Et donc, je me dis, mais voilà, c'est un ovni, ce gars-là. Et puis, voilà, il y a un partage avec le public. Il y a une improvisation extrêmement facile. Il n'y a personne qui ressemble à ce qu'il fait à l'époque, en tous les cas. Donc voilà, ça met une claque ce jour-là.
Est-ce qu'on entend Frédéric? Mais oui, c'est l'Ave Maria de Charles Gounod.
Mélodie inspirée d'un prélude de Bach, ouais. Ici réarrangé par Bobby McFerrin et le violoncelliste Yo-Yo Ma. C'est un extrait de leur album Hush, paru il y a 30 ans, album qui reste associé à un autre souvenir important pour Denis Lebas.
Là, on est en janvier 94 et c'est la naissance de notre fille aînée, Clémentine. Premier enfant, donc rien qu'en soi, c'est beaucoup d'émotions. Et pour rendre la chose un peu plus légère, je viens avec quelques CD, un lecteur portatif et deux petites enceintes dans la salle d'accouchement pour que ce soit plus détendu, peut-être un tout petit peu plus détendu pour moi aussi, si je suis honnête, même si c'est pas du tout le même travail. Et dans la pile, ben évidemment, je viens avec du Bobby McFerrin et j'ai un souvenir très ému de ça, de ce morceau, voilà, dans la salle. Qui m'emmène, qui me libère. En tous les cas, c'est une musique apaisante avec Yo-Yo Ma, violoncelliste incroyable. Cette rencontre là, ce disque, c'est que des perles. Et donc, ben voilà, ça nous a accompagnés, ça m'a accompagné ce jour-là.
<t'en>
dit qu'avant de monter sur scène, il ne sait pas exactement dans quel ordre il va procéder, il ne sait pas exactement quel titre il va interpréter.
Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Il est venu quelques années plus tard à Coutances, donc j'ai pu voir de plus près comment ça se présentait. Et effectivement, c'est vrai que Bobby, ben voilà, il a un bagage énorme. Il peut aller dans le classique, il peut aller dans la pop, il peut aller dans le jazz, dans les racines africaines, tout ça. Il pioche là-dedans et chaque concert est une aventure différente. Moi, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois, évidemment, comme je suis un peu branché. Ben, c'est joyeux, on ressort de là avec la banane et c'est pour ça qu'on va voir des concerts, non ? C'est pour repartir plus nourri, plus joyeux qu'en arrivant.
Et là, Bruno, c'était le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov.
Dans la version de Bobby McFerrin et Yo-Yo Ma, Bobby McFerrin, que nous faisait donc écouter Denis Lebas, le directeur de Jazz sous les pommiers.
Festival dans la 41e édition, début de vendredi à Coutances, des dizaines de concerts avec parmi les têtes d'affiche Ibrahim Maalouf, Tornetta Davis ou Mélodie Gardot. Il y a également de nombreux spectacles gratuits, c'est du 20 au 28 mai.
À demain.
À demain.
Dans le feuilleton jusqu'à vendredi, une semaine dans les jardins familiaux de la Poterne à Lille. 73 parcelles louées à des habitants qui manquent d'espace chez eux. C'est l'héritage des jardins ouvriers apparus à la fin du 19e siècle pour permettre aux ouvriers de faire leur potager. Les jardins familiaux, on le vend en poupe. Vous allez voir à quel point dans cet épisode, avec l'envie des citadins de revenir à la terre, de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette et de faire des économies. Le feuilleton est signé cette semaine Cécile Bideau. Son guide est le président de l'association des jardins familiaux du Vieux-Lille, Christian Canon, qui nous emmène ensuite à la rencontre de Mourad, Alice et leurs quatre enfants.
Nous sommes sur la plaine de la Poterne, une ancienne esplanade militaire. Cet espace a été remblayé par les travaux du périph dans les années 70-75. Et donc nos jardins sont en quasi-totalité sur un sol assez argileux hein, qui vient de se rembler du périphérique qui fait le tour de l'île.
Et alors, plus on avance, plus on entend les oiseaux.
Exactement.
Quel est le profil, justement, de ces jardiniers ?
Ben, on a un peu toutes les générations, de 30 à 85 ans. On a une communauté arménienne, portugaise, maghrébine. Bonjour. Ça va bien ? Voilà, donc on arrive... numéro 38, hein, qui est mon jardin. La préoccupation est plutôt l'arrosage que le jardinage. Donc l'arrosage, oui, mais pas uniquement, puisque un vieux dicton dit que deux binages vont mieux qu'un arrosage.
Fait pour devenir locataire d'une parcelle, heureux jardinier de cet espace.
Les attributions sont faites en fonction de l'ancienneté d'arrivée sur la liste d'attente.
En moyenne, on attend combien de temps ?
3 ans, 3 ans et demi. Aujourd'hui, on a 80 personnes en attente, sachant qu'on a eu quand même un regain de demande et d'intérêt pour le jardinage depuis le confinement. On demande 40 euros de cotisation. Une partie de la cotisation permet d'acheter des graines, de financer à hauteur de 25 euros. Betteraves rouges, carottes, navets, radis, haricots, petits pois. Le kit de base, je dirais, pour ensemencer une parcelle de 100 mètres carrés. Allez, c'est ouvert. Ça va, Mourad ? Bonjour, Alice.
Vous faites quoi, là ?
Eh ben, on pêche, on retourne la terre, on prépare pour planter, pour semer.
Et donc dans chaque carré, on va mettre des légumes qui poussent bien ensemble.
Et alors après, vous les mangez ?
Bien sûr.
Et alors, ils sont bons ?
Bah, ils sont meilleurs que dans le commerce. Quoi. Puis c'est le plaisir de les avoir fait pousser nous-mêmes. Et
regardez ce qu'on
le goût du jardin.
Il y avait un bébé dans un chou-fleur ?
On a eu un bébé dans un chou-fleur, ouais.
Vous jardinez en famille, alors tous les enfants sont là.
Alors cette année, justement, je suis en train de leur délimiter des parcelles aussi. Ici, Ilias y aurait sa parcelle. Safia serait ici, au milieu.
Ouais, au milieu.
Et Zach, il serait là.
Moi, je l'aime bien être un tournesol, parce que je trouve qu'ils sont beaux. Un pied de tomate. J'aimais pas trop les tomates, mais ceux du jardin, j'aime mieux que ceux du magasin.
Qu'est-ce qu'on fait avec les légumes qu'on plante, Safia?
On les mange.
Ouais, on fait aussi quoi? Tu sais, dans les bocaux en verre.
La confiture que t'as mangée ce matin, par exemple.
Et aussi la ratatouille.
De juillet à même l'hiver, parce que j'avais fait des conserves et j'avais congelé, j'ai pu acheter de légumes pour en plus des produits de qualité, quoi, parce que c'est ceux qui coûtent le plus cher en magasin. Donc
finalement, c'était pas le but premier, mais quand même, vous vous rendez compte que ça vous fait faire des économies.
C'est ça, oui.
Ça aide même à mieux manger, parce qu'on découvre des légumes qu'on fait nous-mêmes et on a envie de les cuisiner. Et c'est pas tout le temps qu'on fait ça quand on va par exemple au supermarché. On passe à côté des légumes, etc., mais ils nous laissent presque indifférents. Tandis que là, on les cultive nous-mêmes et on a envie de les cuisiner. Et on découvre une autre façon de manger, en fait.
Le feuilleton cette semaine, reportage Cécile Bidot, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Une communauté politique européenne, sorte de sas d'entrée, ou pas d'ailleurs, avant une intégration pleine et entière dans l'Union. Voilà ce que propose Emmanuel Macron à l'Ukraine, notamment. Jean Lebrun, vous revenez dans le vif de l'histoire sur ce que François Mitterrand avait déjà évoqué en 1989. Il parlait, lui, de Confédération européenne.
Alors, coïncidence, à la haute époque Mitterrand, le second semestre 1989, la France présidait le Conseil européen et elle devait déjà affronter des événements formidables qui font peur au sens premier du mot. Pas le temps de tirer parti tranquillement des effets de la perestroïka de Gorbatchev. C'était l'automne des peuples. La réunification allemande avançait à grands pas. L'ancien dissident Václav Havel arrivait au pouvoir à Prague. Les Ceausescu tombaient bruyamment en Roumanie. L'opinion européenne redécouvrait soudain ses membres amputés. Les pays d'Europe centrale et orientale. Mais l'institution européenne, 12 membres à l'époque, disait « Il est trop tôt pour en retrouver l'usage de ses membres. La grève va prendre du temps, il faudra des lustres pour la remise à niveau. » D'où l'idée, chez Mitterrand, d'un palier qu'il appelle, lui, « Confédération européenne ». Alors aujourd'hui, Macron tient le même langage à l'Ukraine, et secondairement à l'Albanie, à la Macédoine du Nord, à la Géorgie, etc. Passer donc par un sas, qu'il nomme lui « Communauté politique européenne », vous l'avez dit Bruno. Un rodage, un circuit d'essai, avant de prendre les virages difficiles.
Et Zelensky, de suite, a réagi négativement à la proposition.
Zelensky, il a déposé sa demande d'adhésion, il attend début juin l'avis de la Commission de Bruxelles et fin juin, sans doute, la réponse du Conseil des chefs d'État et de gouvernement à l'issue de la présidence française. Un dessinateur de presse l'a représenté, poussé vers une salle d'attente. Alors il est en tenue kaki et il proteste « Mais je suis en guerre, moi !» Et pour vos idées. Parlant le 11 mai en visioconférence face aux étudiants de Sciences Po, Bruno, il a déclaré « Quand on vous offre de rejoindre une table, on vous propose au moins une chaise. »
En 1990, quand Mitterrand essayait de convaincre de l'utilité de ce qu'il appelait, lui, la Confédération européenne, les réactions étaient comparables dans les pays d'Europe de l'Est et du Centre.
On disait les pécos, c'était beau. Hein. Mitterrand, il avait élu comme interlocuteur privilégié Václav Havel. L'écrivain, président tchèque, exerçait un véritable magistère depuis Prague, que le président français considérait comme le centre affectif de l'Europe. Mais la visite préparatoire qu'il y avant les assises de la Confédération, dissipa ses espoirs. La France, comme aujourd'hui, c'est une permanence de notre diplomatie, raisonnait en termes de géographie. Pour elle, la Russie pouvait naturellement, de par sa position sur la carte, adhérer à la Confédération. Il faut dire qu'elle était alors dirigée par Gorbatchev, autrement disposé qu'aujourd'hui Poutine. Le locataire du Kremlin de 1990 parlait sans cesse de maison commune européenne. « Pas question !» répondait Havel, qui allait entraîner ses collègues. « Nous avons été occupés par Moscou, nous ferons dorénavant sans, voire contre Moscou. » Dans les pays d'Europe centrale et orientale, les PECOS, l'emportait la géopolitique au sens qu'il donnait davantage d'importance aux valeurs communes qu'aux frontières imposées. Et ces valeurs, il les trouvait souvent mieux incarnées par les États-Unis que par l'Europe occidentale. Washington n'a pas manqué de torpiller les efforts de Mitterrand.
Et donc, les assises de la Confédération à Prague, en juin 91, tournèrent court.
Václav Havel reçut les délégués avec tout l'esprit de facétie dont il était capable. Il fit semblant de croire qu'ils étaient des journalistes et des intellectuels venus échanger seulement des idées. Il répéta « ses convictions intimes, davantage d'États-Unis, plus du tout de Russie. Et en conclusion, il estima que la Confédération présentait tout de même un aspect intéressant, sa dimension futurologique.
Oui, mais il semble qu'Emmanuel Macron croit à cette dimension.
Oui, mais il trouvera encore moins d'alliés dans les pays d'Europe centrale et orientale que Mitterrand. Il y a 30 ans, l'ironie du sort veut qu'à partir du 1er juillet, la présidence de l'Union échoue à la République tchèque, qui a déployé comme programme un discours de Václav Havel, l'Europe un devoir. Ce devoir implique-t-il l'adhésion rapide de l'Ukraine? Havel disait, avec ses amis ex-dissidents, « Nous entraver le chemin, ce serait un crime contre l'esprit. »
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, juste avant 14h tous les jours. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans quelques minutes, quel programme?
Nous allons parler du trou noir de notre galaxie Sagittarius A étoile.
À tout de suite.